suis pour le métissage de la société, c'est-à-dire que je trouve que la société française, son avenir, sa beauté, c'est le mélange. Ah, c'est hey. Ça, ça craint. Hey. Quand j'étais ado, hein, moi, quand je croisais une voiture de police, franchement, j'avais peur.
Ça me révolte. La vérité, ça me révolte. La vérité, quand vous accompagnez votre enfant à l'école, comme je l'ai fait, dans une ZEP, et que vous voyez les gosses, et que vous dites que les trois quarts d'entre eux, leur destin, il est presque écrit. Pas leur destin individuel, ils ont encore des chances, mais leur destin scolaire, social, c'est un peu écrit. Et que, année après année, à chaque rentrée, vous les voyez marginalisés, vous en voyez moins, vous voyez qu'ils décrochent. C'est révoltant. Alors, votre solution. Je me suis fait une conviction. Il n'y a pas de solution pour les uns qui ne soit pas une solution pour les autres. C'est un plan France, un plan République qu'il faut, pas un plan banlieue.
Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mamadou et Binta, les conteurs de belles histoires. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Patrick Czarnicki, docteur en psychologie sociale, conférencier, formateur et auteur. Il accompagne les entreprises dans le management de leur diversité, ainsi que dans la compréhension des stéréotypes sur les interactions sociales et professionnelles. Avertissement. Cet épisode a été tourné au tout début du projet. Nous avons malheureusement eu une interférence lors de l'enregistrement, ce qui fait que la qualité sonore est moins bonne que d'habitude. Heureusement, on maîtrise beaucoup mieux l'exercice de prise de son aujourd'hui, car comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. On a tout de même tenu à partager avec vous cette formidable rencontre, car le contenu est riche et passionnant. Merci d'avance pour votre écoute, et merci d'avance pour votre indulgence. Alors Patrick, dites-nous tout. Qu'est-ce qu'un stéréotype ?
Un stéréotype, c'est tout simplement dans notre cerveau une image automatique qu'on associe aux membres d'un groupe, quel qu'il soit. Donc on peut spontanément imaginer qu'on a un stéréotype envers les personnes âgées, envers les noirs, envers les femmes, envers les personnes en situation de handicap. Et ces stéréotypes, on y reviendra, mais ils se construisent de façon automatique. On décide pas forcément d'avoir dans son cerveau un stéréotype envers un groupe.
Ça vient tout seul.
Ça vient tout seul et ça se construit extrêmement tôt. Alors après, on peut y accorder du crédit ou pas, on peut considérer qu'on est d'accord ou pas avec cette information qui s'est mise dans mon cerveau, mais ça s'installe automatiquement.
Les stéréotypes peuvent alimenter plusieurs types de comportements ou d'idéologies négatives, le sexisme ou le racisme par exemple. Ils peuvent également avoir un impact plus insidieux en créant des biais décisionnels dans nos réflexions, dans la façon dont nous percevons et nous évaluons les gens. Parfois, on entendra aussi parler de clichés, pour parler de stéréotypes. Des exemples de clichés, il en existe plein. On a fait un petit tour dans les cours de récré pour voir comment les enfants questionnent les clichés.
N'empêche, c'est une super idée, parce que moi, il y a plein de trucs que je voudrais comprendre. Comme par exemple...
Pourquoi un garçon qui séduit les filles, c'est un donjon, et une fille qui séduit les garçons, c'est une fille facile?
Pourquoi il y aurait des sports de filles et des sports de garçons?
Pourquoi les filles doivent jouer aux poupées et les garçons aux petites voitures?
Pourquoi les garçons seraient-ils mieux payés que les filles à travail égal?
Pourquoi le masculin l'emporte sur le féminin dans la langue française?
Pourquoi les garçons devraient avoir les cheveux courts et les filles les cheveux longs?
Pourquoi on dit équipe féminine de football et jamais équipe masculine de football?
Pourquoi on commande toujours les vêtements des filles et rarement les vêtements des garçons?
Pourquoi on dit que la batterie c'est un instrument de garçon et que la flûte traversière c'est un instrument de fille?
De stéréotypes.
Ouais.
Pourquoi c'est important d'en parler? Est-ce que vous trouvez que vraiment il y avait besoin?
Alors pourquoi est-ce que c'est important de travailler dessus pour répondre à votre question? Bah parce qu'on voit bien que c'est le stéréotype qui va conditionner le rapport que j'aurai à l'autre. Si dans mon cerveau j'ai stocké pour toutes sortes de raisons le stéréotype que je sais pas moi, que les enfants noirs sont moins intelligents que les enfants blancs, on voit bien que dès que je vais interagir avec un collègue noir, le danger, c'est que ce stéréotype qui s'est mis dans mon cerveau malgré moi vienne perturber ou changer la nature de l'opinion que j'aurais de cette personne.
D'accord.
Donc, pour travailler ensemble et bien vivre ensemble et être travailler en bonne intelligence, il faut se questionner sur ce qui est dans mon cerveau et qui prédispose à ce comportement.
D'accord. Ok, c'est intéressant. Et donc, est-ce que tout le monde a des stéréotypes ou il y a des gens qui ont plus de stéréotypes que d'autres?
Alors, non. Au sein d'une culture donnée, tout le monde a des stéréotypes. Mm-hmm. Et même tout le monde a à peu près les mêmes.
Ah ouais?
Ouais, à peu près les mêmes parce que les stéréotypes sont construits par la culture.
Alors, d'accord.
Mais c'est la culture au sens large, ça va être les dessins animés, la publicité, le cinéma, les valeurs à l'école.
C'est le milieu familial, les choses.
Alors oui, alors c'est ce que j'allais dire. Il y a d'abord ce cercle large, et puis après il y a le cercle plus restreint qui est la famille et comment je suis exposé dans ma famille à plus ou moins de valeurs. Alors bien sûr que si je suis dans une famille où on me dit depuis tout petit qu'il y a une différence, je reprends cet exemple d'intelligence entre les blancs et les noirs, bon, il y a de fortes chances que ça s'imprime un peu plus dans mon cerveau, mais ça ne veut pas dire que je vais y croire. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Quand je dis tout le monde a des stéréotypes et tout le monde a les mêmes, c'est juste... Le stock d'informations qui sont dans mon cerveau.
D'accord.
Ce qui ne veut pas dire que, évidemment, tout le monde a le même stock d'informations et que tout le monde y croit.
Ouais, hein? C'est vrai.
C'est-à-dire qu'après, il y a son expérience de vie, les voyages qu'on va faire, la capacité intellectuelle à prendre du recul par rapport à tout ça, qui va faire que une personne peut avoir conscience d'un stéréotype qu'il a,
ouais.
Mais... dans le même temps, avoir fait le travail de comprendre qu'il n'a pas de sens.
Est-ce que vous pensez que l'actualité, ou même la façon dont les informations sont traitées à la télé et dans les médias, ils jouent pour quelque chose?
Ils jouent terriblement. Ils jouent terriblement et ils jouent extrêmement tôt. Alors, ils jouent terriblement de deux façons. D'abord, par la représentativité des différentes populations dans les médias. Et on voit bien que le CSA, tous les ans, se fait taper sur les doigts par une sous-représentation des minorités visibles. Dans les films, dans les pubs, à la télé, etc. Et surtout, le rapport du CSA montre que non seulement, par exemple, les Maghrébins, les Noirs sont moins représentés dans les médias qu'ils ne le sont dans la vraie vie, et quand je dis médias, c'est émissions de télé, c'est aussi des feuilletons, c'est des films. Mais surtout, ils sont mis dans des rôles qui ne sont pas n'importe lesquels. On a fait un travail d'analyse des livres scolaires, pour un grand éditeur, et notamment un livre de CM1 sur la grammaire.
D'accord.
Où on présentait quatre personnages qui devaient résoudre des exercices, et dans les quatre personnages, il y a un noir. Le noir, il réussit 10 fois moins les exercices que le blanc, dans le livre scolaire. Alors, il se trouve que les éditrices, elles n'ont pas conçu de cette façon-là. C'est-à-dire qu'il y avait des exercices, et puis il y avait les quatre personnages, et elles, quand j'ai présenté les résultats, en toute bonne foi, et je les crois, elles m'ont dit, mais on n'a même pas fait attention. Elles n'ont pas fait volontairement, vous voyez ce que je veux dire.
Le résultat, c'est
juste. Si moi, je suis un gamin de CM1 noir et que je lis toute l'année mon livre, ce que mon cerveau imprime, c'est que l'enfant blanc, il réussit les exercices et que l'enfant noir ne les réussit pas.
Absolument.
Et ça, quand vous dites les médias, la culture, c'est un impact qu'on sous-estime. C'est un impact extrêmement lourd sur la confiance en soi, sur l'image.
J'ai 40 ans de carrière, mais je n'ai eu que 5 patrons. Ils n'ont jamais pu accepter que je sois chef d'équipe. Ça, c'était leur...
C'est impossible.
Ouais, j'ai formé des jeunes qui sont passés chefs devant moi. Et pourtant, moi, j'ai tenu ma carrière. Mais c'est des stéréotypes qui sont engrangés dans leur tête et qui ne peuvent pas comprendre que, je dirais peut-être pas un noir, mais la venue d'ailleurs puisse venir être un chef d'équipe.
Mais c'est pour ça qu'il faut faire la distinction entre quelque chose qui est volontaire et idéologique et quelque chose qui est automatique. Il faut vraiment faire la différence entre les deux. Vous pouvez tomber sur un patron qui n'est pas raciste.
Ils n'étaient pas racistes.
N'a pas forcément une posture de préjugé négatif, mais comme vous le dites, à un moment donné, ça ne vient même pas à l'esprit où c'est inconcevable qu'un noir puisse être manager de blanc.
Il y a un truc que je me demande, c'est... en fait, puisque justement, tout le monde a des stéréotypes, et que du coup, les enfants peuvent être confrontés à ces stéréotypes-là, peu importe, dans leur vie de tous les jours. La question que je me pose, et du coup, je me la pose en tant que maman, et je fais aussi écho à mon expérience personnelle, c'est comment on aborde ces sujets-là avec ces enfants. Dans le sens où, est-ce qu'il faut leur dire, que parce que, moi je prends mon exemple, que parce que mon fils, tu es noir, probablement tu vas entendre des choses qui vont te paraître bizarres ou désagréables. Ou est-ce que c'est quelque chose qu'il ne faut pas forcément nommer ou citer, parce que en fait, ça marque une différence, alors que ce qu'on veut faire quand on éduque des enfants, c'est de leur dire en fait, t'es comme tout le monde et tu peux faire comme tout le monde. Et ça, c'est une vraie question. Et en fait, je vais vous demander votre avis, mais après, c'est un avis personnel. Et puis du coup, toi aussi, tu pourras partager ton avis, parce que moi, la façon dont j'ai été éduquée, c'était plutôt de me dire en fait, sache que t'es noir, donc il faut vraiment que tu travailles très, 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 très bien si tu veux t'en sortir. Mais ça met aussi une pression sur les épaules, en fait, qui est très forte et qui, je pense, en fonction des personnalités des enfants, peut soit les propulser, soit simplement tellement leur mettre la pression qu'ils perdent leurs moyens, quoi. Donc, c'est une question à laquelle je ne sais pas s'il y a vraiment une réponse, mais c'est intéressant d'avoir les avis de chacun.
Alors, pour répondre à votre question, non, il ne faut pas anticiper.
D'accord.
On peut anticiper sous la forme de question,
ouais.
Il ne faut pas anticiper sous la forme d'affirmation. Si vous dites à un enfant, tu sais, dans la mesure où tu es noir, tu risques d'avoir des moqueries, des machins ou des trucs, vous prenez le risque de lui mettre dans la tête un truc qui n'existe pas. Et surtout, même si ça part d'un bon sentiment de le protéger d'un danger, vous pouvez prendre le risque de l'enfermer lui dans cette posture. C'est-à-dire que la comparaison est très maladroite, je m'en excuse, mais on a le même phénomène avec les parents qui me disent, mais est-ce qu'il faut que je prépare mon enfant qu'à un handicap quand il va arriver à l'école et lui dire « Attention, on va se moquer de toi. » Moi, je suis ancien bègue. Hein. J'ai été bègue, j'ai encore quelques restes. Mais j'étais bègue. Et on prend cher quand on est bègue. Hein. Mais quand on est gros, comme quand on est les enfants, c'est pas de quartier. Hein. Mais effectivement, plus vous préparez, plus vous dites que la chose va arriver, plus vous provoquez le fait qu'elle arrive. Si vous dites à votre enfant « Tu es noir alors qu'ils sont tous blancs, ils vont se moquer de toi. » Qu'est-ce qu'il risque de faire? Le premier jour à la cour d'école, il ne va pas aller la fleur au fusil en disant « Bonjour les amis, est-ce que vous m'aimez bien? Est-ce que je veux bien être votre ami ?»
Il n'osera pas.
Il n'osera pas puisqu'il se dit « Ouh là là, je vais prendre des moqueries. » Le danger, c'est qu'il reste dans son coin. S'il reste dans son coin, quelle est la conséquence possible? C'est que les gens se disent « Mais vraiment, c'est pas d'effort, quoi. »
Ouais.
Vous faites ce qu'on peut faire, ce que l'on appelle pompeusement une prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire qu'on peut amener la personne à provoquer chez l'autre le comportement qu'il aura à notre égard.
D'accord.
Ça va ?
Ok.
Bon. Donc, en revanche, ouvrir le débat, oui. C'est-à-dire ne pas affirmer, attention, il va t'arriver ça. D'accord ? Poser des questions là-dessus. D'accord ? Il y a beaucoup de couleurs de peau différentes dans ta classe ? Ah bah non, je suis le seul noir. Ah ouais ? Et alors, ça se passe comment? Bon, ça se passe très bien, j'ai pas l'impression qu'ils font attention à ça. Puis terminé.
D'accord, ok.
Mais lui sait que vous avez posé la question.
D'accord, ok.
Ça veut dire que si un mois après, il prend une vanne, il va vous le dire.
D'accord.
Il va dire, c'est marrant ce que tu m'avais dit, parce que là... Mais vous voyez bien que vous ouvrez juste le débat. Il faut pas étiqueter l'enfant, parce que peut-être que lui, il s'est pas auto-étiqueté.
On est arrivé à la maison là où elle est née ici, Anthony, mais on a déménagé dans le Loiret en 92.
Bien sûr.
On nous percevait pas comme des étrangers, mais comme des extraterrestres.
Mais ce qui est peut-être encore le cas d'ailleurs, aujourd'hui.
En
92. Dans les villages, ouais. Je pense
Non, on était dans un village, on était la seule famille noire.
Ouais, bien sûr.
Bah, pour l'inscrire à l'école. Même la directrice, elle était étonnée que je puisse inscrire ma fille à l'école.
Oui.
Donc on était dans un milieu déjà hostile au démarrage. Vu mon parcours professionnel, je me suis dit que là, on n'a plus de choix. Le seul choix, c'est la réussite. Il n'y a pas d'échec, il faut qu'elle réussisse. Je lui ai fait comprendre qu'elle était noire. Tout en ne rejetant pas les autres, parce qu'elle a eu des copines blanches et des copains blancs qui dormaient à la maison. Donc j'ai veillé à ça aussi. Mais sur les études... Moi, je me repoussais les manches tous les soirs, après 8 à 10 heures de peinture, pour lui donner des cours. Mais ça, c'était un combat personnel et le combat d'une communauté.
Non, mais ça dope la motivation.
Oui,
ça dope la motivation.
Donc, ce n'était pas spécifiquement la couleur noire. C'était un combat personnel d'un parcours professionnel qui était assez difficile. Et atterrir dans un village hostile, il fallait prouver qu'on était des êtres humains.
Mais vous avez une motivation qui a été... qui a été double. Mmh. Parce qu'il y a l'histoire de la couleur de la peau, mais il y a l'histoire de l'origine sociale.
De l'origine sociale.
Ce qui est deux choses qui s'additionnent. Parce que vous vouliez que votre fille, elle réussisse, d'une part en tant que noire dans un environnement blanc, mmh. mais en tant que fille d'ouvrier.
Fille d'ouvrier.
Ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, c'est que tout ce que vous décrivez là, c'est la dimension émotionnelle et qu'un blanc peut pas ressentir. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire, moi, j'ai fait mes études avec une amie que je revois encore maintenant, au bout de 30 ans, qui est noire. Et quand je faisais ma thèse, elle me disait, Patrick, tu peux lire tous les livres que tu veux. Tu peux comprendre tous les systèmes. Tu peux comprendre comment le cerveau fonctionne tout. Jamais, tu ne ressentiras ce que c'est que de rentrer dans une rame de métro quand on est noir.
Oui.
Tu ne ressentiras jamais.
Ouais,
c'est la dimension émotionnelle. Tu peux intellectualiser tout ce que tu veux.
Ouais, c'est clair.
Tu peux tout comprendre, tout analyser. Jamais, jamais, tu ne ressentiras ce que c'est que quand tu as une rame avec que des blancs et que deux gamins, deux ados noirs rentrent dans la rame. Tout ce qu'on sent dans les regards, dans la crispation des corps, qui est du non-verbal. Hein,
ouais, exactement.
Et tu peux tout intellectualiser. Et le jour où elle m'a dit ça, ça a fait tilt dans ma tête. Et effectivement, cette dimension, et tout ce que vous décrivez là, avec beaucoup d'émotion d'ailleurs, des années après, montre à quel point c'est la dimension émotionnelle.
Ah, clairement. Ah ouais, mais clairement.
Et qu'on peut l'intellectualiser, on peut l'expliquer. C'est compliqué parce qu'on ne peut pas le transmettre.
Ça, on ne peut pas.
Le seul moyen de le transmettre, c'est de mettre l'autre dans la situation. D'accord. Donc, il y a eu quelques expériences intéressantes dans les écoles, en fait, où on a... alors, évidemment, avec blanc-noir, on ne peut pas demander... c'est compliqué d'inverser. Donc, on a trouvé des critères qui n'étaient pas la couleur de la peau, mais pour faire comprendre aux enfants. Donc, par exemple, dans une école américaine, on a fait croire aux enfants que la couleur des yeux prédisposait à l'intelligence. Et on a dit, on arrive lundi matin et une instit dit, écoutez, j'ai lu un article ce week-end et j'ai découvert que les enfants aux yeux bleus sont nettement plus intelligents que les enfants aux yeux marrons.
Ouais.
Donc ça se passe au Texas il y a très longtemps, donc il n'y a pas de noir. Hein.
Ouais.
Et elle dit donc, à partir de maintenant, puisque les yeux bleus sont plus intelligents, autant les favoriser. Et donc elle les laisse partir en récréation, donc elle crée un système de privilège pour les yeux bleus par rapport aux yeux marrons. Et voilà, guerre civile. Mais en une heure.
C'est vrai?
En une heure. Dans la cour, les
trucs qui partent en cacahuètes.
Je vais vous donner la vidéo. Hein.
Avec plaisir.
Les gamins ne jouent plus ensemble, c'est la guerre. Et surtout, l'après-midi même, elle leur donne un exercice à résoudre. Elle les chronomètre et elle fait une table avec les yeux bleus et une table avec les yeux marrons. L'après-midi même, les yeux bleus sont plus rapides.
C'est fou ça. Oui.
Elle revient le lendemain matin et elle me dit, excusez-moi, je me suis trompée. C'est les yeux marrons les plus intelligents. Et donc, elle inverse le système de privilèges.
Ouais.
L'après-midi même, les yeux marrons sont plus rapides que les yeux bleus. Le jour même.
Ouais.
Tout ça en 48 heures. Mmh. Et au bout de 48 heures, elle leur dit, tout cela n'est pas vrai, je voulais juste que vous compreniez ce que ça vous fait de vivre la discrimination. Les Québécois l'ont refait il y a 10 ans sur la taille. C'est une instinct qui dit, elle trace un trait sur le mur et elle dit, manifestement, il y a des travaux scientifiques qui montrent que la taille prédispose à l'intelligence.
Ouais.
Et donc les petits, alors d'habitude on est plutôt dans une société qui valorise les grands. Hein.
Bon. Ouais, c'est clair.
Elle dit en fait en dessous de cette taille-là, les enfants sont plus intelligents. Et donc elle les fait passer en par un devant tout le monde. Et elle dit ah toi t'es au-dessus, t'es dans le groupe t'es pas intelligent. Va t'asseoir. Et l'après-midi même, c'est fini. Et il y a un truc spectaculaire, c'est qu'ils jouent première récréation après qu'elle fait ça. Quand elle leur demande de revenir en classe. Ils sont censés se mettre en deux lignes. Ben, les deux lignes, c'est des grands d'un côté.
Chacun se met de son côté, quoi.
C'est le seul moyen pour moi de faire vivre, la seule manière de faire comprendre la dimension émotionnelle de tout ça, c'est de mettre des gens en situation. C'est le seul moyen. Sans quoi, on peut le comprendre, mais il faut le ressentir.
Il faut le ressentir.
On ne peut pas le ressentir.
C'est clair.
Déjà que j'avais identifié quand j'ai fait ma thèse il y a 25 ans, qui est encore vrai dans cette étude qui est de 2014, le stéréotype basique du noir est un stéréotype neutre, c'est-à-dire qui s'équilibre avec des éléments très positifs et très négatifs.
D'accord.
Ça va ? Dans le positif, on retrouve évidemment le côté
souriant,
sympa, ils aiment la fête, ils sont accueillants, blablabla. Ouais. Et dans le côté négatif, il y a le côté faible niveau intellectuel, emploi bas statut, paresseux, blablabla. Bon. Ils ne se lèvent pas le matin, etc. Mais c'est un stéréotype intéressant et c'est pour ça que je l'avais pris moi dans ma thèse, parce que c'est un stéréotype qui est composé d'éléments qui finalement se neutralisent.
D'accord.
Et qui font que la figure du noir aujourd'hui en France ne génère pas quelque chose de violemment négatif. Ça va ? Quand vous prenez les maghrébins, alors là, c'est rien à voir. Il n'y a pas d'élément positif aujourd'hui dans le stéréotype envers les maghrébins. Et donc, ce stéréotype très très négatif, ce qu'on a découvert, ce qui est vrai dans les testings même que l'Institut Montaigne fait, c'est qu'il est extrêmement associé à l'homme.
À l'homme, d'accord.
Et du coup, vous avez un écart hallucinant du stéréotype envers l'homme maghrébin et la femme maghrébine. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça se retrouve dans les entreprises.
Ouais.
Parce que ça se retrouve à l'école.
D'accord.
Parce que vous voyez bien comment les familles maghrébines vont surprotéger les filles, souvent aussi pour des raisons religieuses, mais vont les surprotéger par rapport à l'école. Du coup, elles réussissent mieux, mais mon sentiment, c'est qu'il y a une partie là de ce que votre père a fait avec vous. Il y a aussi une partie de d'autoconviction et de prophétie autoréalisatrice.
Ouais,
comme les filles maghrébines ont beaucoup plus de rôle modèle, parce qu'il y en a de plus en plus.
Oui.
Regardez dans en politique, les seuls maghrébins qui réussissent, ce sont des femmes. Quoi qu'on en pense, les Rachida Dati, etc. Il n'y a pas d'hommes. Pas d'hommes maghrébins.
Et les stéréotypes sur les Asiatiques, parce que du coup.
Alors le stéréotype sur les Asiatiques en France, il va changer à mon avis.
Ouais.
Ça va changer. D'ailleurs, on commence à avoir les premiers signes de ce qu'on appelle de sinophobie, c'est-à-dire de discrimination ou de posture raciste envers la population asiatique, mais en France, c'est très très rare. Historiquement, le stéréotype de l'asiatique, il est très positif. C'est travailleur, discipliné, obéissant, discret, docile. Donc, c'est juste hyper béni pour les entreprises.
D'accord. Donc, okay.
Avec derrière le stéréotype du cerveau mateux. C'est comme ça, les Asiatiques sont doués pour les maths. Bon, je pense qu'il y a tout un délire autour des nouvelles technologies.
Oui, bien sûr.
Le Japon. Mais c'est pour ça que c'est passionnant les stéréotypes, parce qu'il y a des traces archaïques dont on ne sait pas d'où elles viennent.
Oui, c'est clair.
Et qui ne s'effacent pas. Eleanor Roosevelt dit une phrase qui est, moi, celle qui m'anime depuis toujours. Elle dit: nul ne peut vous faire sentir inférieur sans votre propre consentement. Les stéréotypes, la discrimination, ça ne marche, c'est pas unilatéral. C'est un cercle, c'est une circularité. On projette sur moi une image qui est négative, ça dégrade l'image que j'ai de moi, je suis persuadé qu'on ne m'aime pas, et à partir de là, je confirme ce qu'on dit de moi. Soit je le confirme en laissant tomber,
C'est grave.
Soit je le confirme par l'agressivité.
Ouais, aussi.
Vous voulez pas de moi, bah vous allez voir ce que vous allez prendre. D'accord,
d'accord.
Et donc, mais je confirme. Et ça réalimente
le stéréotype.
Le stéréotype. Donc c'est compliqué à entendre, mais quand on est victime, on est acteur de sa propre discrimination. Qu'on le veuille ou non,
consciemment ou pas,
on peut finir par être acteur de sa propre discrimination. Donc tout ce qu'on peut dire à ces jeunes, c'est de rentrer en résistance contre ça. De rentrer en résistance contre l'abattement et contre l'acceptation que l'autre a raison. C'est ce que vous avez fait. Vous avez refusé, quand vous avez décidé de vous installer là où vous êtes et puis d'encourager vos enfants, vous êtes rentré en résistance avec ça. Vous avez dit, ça n'a pas de sens. Je ne veux pas accepter que mes enfants internalisent ou acceptent cette idée qu'on projette sur eux, et je vais démontrer que tous ces gens-là ont tort. Mais c'est compliqué.
C'est très compliqué.
Donc voilà, pour finir avec comme message, c'est ça. Il ne faut pas accepter les images les enclumes qu'on nous pose sur les épaules.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Mamadou et Binta, les conteurs de belles histoires. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. À très vite.